L'âge bête sur RCN.
Bonjour, soyez bienvenue sur RCN dans l'âge bête, une demi-heure où on parle de plein de choses, d'actualité, d'écologie, d'histoire, de culture, de musique, on parle de tout. Un petit tour de table, aujourd'hui, celui qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Stéphane Bern, hormis qu'il est blond, qui fait 6 cm de moins et qui fait des vannes pourries, tout comme moi, Clément, bonjour.
Ouais, on va parler d'apartheid aujourd'hui.
Très bien, alors celle qui aime nous dire que c'était mieux avant, à l'époque de nos aînés, qui compare les générations, Ottilie, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui c'est les records mondiaux.
Ah, très bien, alors Clovis, à 14h10, celui qui nous déprime chaque semaine sur l'état de la planète, et c'est pas prêt de s'arranger, visiblement. Clovis, bonjour.
Bonjour Martin, aujourd'hui on va parler agriculture.
Très bien, alors à ma gauche maintenant celle qui montre que le niveau culturel de l'équipe est aussi bas que l'intelligence de Cyril Hanouna. Ici bonjour, fallait que je trouve une rime.
Bonjour.
Allez, celui qui chaque semaine nous fait découvrir un artiste, qui rêve tous de pouvoir vivre un jour de leur passion. Naïm, tu nous parles de qui aujourd'hui?
De H. Jeune Crack.
Et pour finir ce tour de table, celui qui est fan de torture en nous parlant de formules scientifiques alors que le niveau intellectuel de l'équipe est à peu près le même qu'un élève de 6ème, Alan, bonjour.
C'est moi.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 sur RCN.
RCN, l'âge bête.
Et on commence à parler histoire avec toi, Clément.
C'est ça. Est-ce que déjà vous avez une définition pour l'apartheid?
Non,
voilà,
aucune
comme
idée.
Ça. Non. En Afrique du Sud
C'est quand ils séparaient les personnes en fonction de leur couleur de peau.
Voilà, c'est ça. C'est la politique de séparation finalement des différentes communautés, en l'occurrence les communautés noires et blanches d'Afrique du Sud. Donc on va parler pour ça de Nelson Mandela. On va passer les nombreuses controverses pour seulement faire un focus sur la façon dont il a combattu l'apartheid. Donc il est né en 1918 en Afrique du Sud. On va passer sa jeunesse jusqu'à l'université parce qu'il n'y a pas grand chose de bien spécial en réalité. Donc à l'université, il rencontre plusieurs futurs militants qui se battront à ses côtés. Il s'inspire de la résistance non violente de Gandhi. Il va pratiquer la désobéissance civile, etc. Donc jusqu'à là, on ne va pas utiliser les armes. Le gouvernement va continuer d'oppresser la population, va passer diverses lois ségrégationnistes graves. On n'a plus le droit de grève pour les communautés noires, plus le droit de vote, etc. Cela incite Mandela à rejoindre l'ANC, un mouvement en faveur de l'égalité noir-blanc. En 1948, le gouvernement déclare la situation d'apartheid. Cela renforce les discriminations entre couleurs de peau. Les mariages mixtes, par exemple, sont interdits. Mandela devient vice-président de l'ANC. Il commence par une résistance non violente, donc les manifestations comme par exemple celle du 6 avril 1952, où 10 000 personnes manifestent leur mécontentement. Résultat, 8 500 seront arrêtés, dont Mandela. Il veut négocier avec les partis blancs qui ne font pas partie du gouvernement. Cela aboutit à une alliance. Ils sont cependant accusés de trahison peu de temps après. En 1960, l'ANC est interdit, au même titre que les autres mouvements prônant la liberté des Noirs.
Et c'est à ce moment-là que Mandela commence à utiliser la force pour se battre.
Voilà, il commence par une demande de grève générale, il continue avec une multitude de sabotages. L'objectif ici, c'est qu'il n'y ait aucune perte humaine et aucun blessé. Il vise ainsi des lieux symboliques, comme des bureaux d'administration, la cour de justice pour natifs, etc. Il mène alors près de 190 attaques en 2 ans. Il commence une tournée continentale pour avoir des armes et des soutiens. Les États-Unis s'en mêlent, interdisant l'accès aux membres de l'ANC à son territoire, puis en aidant le gouvernement sud-africain à procéder à l'arrestation de Mandela. Il va être condamné à 5 ans de prison initialement, puis condamné avec d'autres militants, cette fois-ci à perpétuité. Il effectue 27 ans de prison, dont 18 par exemple à Robben Island, une prison mondialement connue et célèbre pour sa sécurité et ses conditions de vie très rudes. Jamais il n'accepta de traitement de faveur de la part des gardiens de prison. Il refuse ainsi 2 libérations sous condition, ce qui montre finalement son honnêteté et un sentiment de sang-froid. Il s'aperçoit que les Afrikaners, donc le nom du gouvernement blanc et des blancs d'Afrique du Sud, il s'aperçoit donc que ceux-ci sont en réalité menés par la peur que les personnes de couleur ne partagent pas avec eux le pouvoir. Après un changement de gouvernement, les militants condamnés à perpétuité sont graciés. Mandela dira de De Klerk, donc le président alors en poste qu'il a gracié, qu'il est le plus sérieux et le plus honnête homme des leaders blancs. Mandela ne tient pas rigueur aux blancs de ses 27 ans d'emprisonnement et veut toujours pacifier les relations entre les deux camps jusqu'alors opposés par le gouvernement. En 93, Mandela et De Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix pour récompenser la réconciliation entre blancs et noirs d'Afrique du Sud. En 94, l'année suivante, Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Ses principales luttes sont contre les discriminations, la pauvreté et pour la liberté avec un grand L. Il aura aidé à redresser un pays abandonné par la communauté internationale à cause de cette histoire d'apartheid. Et malheureusement, il s'éteint à l'âge de 95 ans, donc en 2013, après avoir participé à de multiples œuvres caritatives après son mandat.
Mandela, donc un grand personnage de l'histoire, c'est vrai, dans le monde. Merci Clément de nous avoir fait redécouvrir un peu toute son histoire. On parle maintenant génération avec toi, Ottilie. Tu nous parles de records mondiaux.
Eh bien oui, aujourd'hui je vais avoir besoin de vous, donc je vais vous poser des questions sur des records sur certains records et vous devrez répondre. Donc pour moi c'est une personne très célèbre mais apparemment pas pour tout le monde. Ah. Quel est le record, enfin qui détient le record de longévité?
Et je sais toujours pas. Hein.
Jeanne Calment.
Oui, c'est ça, la Française Jeanne Louise Calment. Donc elle a vécu 122 ans et 164 jours. Mmh. Elle est née donc le 21 février 1875 à Arles et est décédée le 4 août 1997 à Arles. Pour vous, le record du plus vieux père, c'est combien? Quel âge?
Oula.
Pour son premier enfant.
98
ans. Non.
70.
Non, c'est plus proche de 98.
Ah ouais,
97.
À ce
point-là. Un peu plus jeune.
95.
Un tout petit peu plus jeune.
94.
94 ans.
Allez.
Quand
c'est
même.
Décerné à Ramjet Raghav. Donc il est devenu père pour la première fois à 94 ans et pour la seconde fois à 96 ans. Et donc pour la plus vieille mère.
Je sais pas.
84 ans.
Non, un peu plus jeune.
Bah, ouais, quand même,
c'est plus possible.
70 ans.
Oui, 70 ans. Donc, c'est une indienne, donc Omkari Panwar. Elle a accouché de jumeaux à 70 ans. Bon, c'était un petit peu aidé. La grossesse a été un petit peu aidée. Oui.
C'est moi ou c'est le juste prix, cette chronique?
Donc, ensuite, je vais vous demander pour vous le record donc, du plus gros bébé donc, à la naissance, son poids.
6 kilos.
10 kilos.
20 kilos.
Un bon gros bébé, 15 kilos.
10 kilos, je pense. Hein.
10,8 kilos donc, à sa naissance. Ah, mais bon, c'est pas trop étonnant parce que sa mère, elle faisait 2,27 m.
Ah, oui.
Ouais, quand même. Voilà. Tu dois être lourd à porter, hein, quand même.
Bah, surtout que je crois que c'était par voie basse et sans péridurale, du coup.
Ah oui, quand même.
Voilà. Ouais. Donc, il y a eu aussi d'autres cas. Donc, en 1875, un bébé de 10,4 kilos est né, mais il n'a pas survécu. En 1955, un bébé de 10,2 kilos est né en Italie et lui, il a survécu. Et le plus grand prématuré. À partir combien de mois de grossesse?
Bon, je sais pas.
Trois.
4 mois et une semaine de grossesse. Ah. Et donc, il est toujours en vie. Il est né donc en 2020. Et voilà. Donc, bon, là, on va parler donc le plus grand homme qui ait vécu. Donc, il est décédé.
2,72 m.
Oui.
Ben, forcément. Bah oui, non, mais oui.
2,72 m. Non, mais il passe même pas les portes, ça doit être. N'empêche, pas évident.
Il passe pas le plancher, j'ai vu ça récemment aussi.
Il est mort à 22 ans parce qu'évidemment, il avait une maladie. Ouais. Il est mort en 1940. Et la plus grande femme.
2,50 m.
Eh bien, presque.
2,51 m.
Un 40, petit peu moins.
2,40 m, quelque chose.
49, qui dit mieux?
2,46 m. Donc, c'est une femme chinoise. Donc, c'était Zheng Jinlian. Ouais. Elle est décédée à l'âge de 18 ans en 1982. Et à 4 ans, elle faisait déjà 1,56 m.
Ah oui,
1,56 m.
Et dire que c'est la taille d'adulte.
Oui, ce que j'allais dire, Clément, on en est presque là aujourd'hui.
Ouais, quand même.
À 10 cm près. Hein.
Non, 12.
Et pour vous, à quel âge donc, a été la plus jeune grand-mère?
12 ans.
Alors, c'est statistiquement pas possible.
Je dirais 22 ans.
Ouais, par là.
23 ans, donc c'est une grand-mère roumaine. En fait, elle a accouché de sa fille à 12 ans, qui a elle-même accouché à 11 ans.
Mais c'est pas possible.
12 ans. Ok. Ouais.
Ouais.
C'était quoi le nom de ta conjure?
Les records mondiaux.
Ah oui.
Ah oui. Alors le plus. Pour vous, quel âge avait le plus jeune médaillé olympique?
12 ans aussi.
Tu es presque, c'est 10 ans. Donc, c'était pour l'épreuve des barres parallèles par équipe. Donc, c'est un petit grec qui s'appelle Dimitrios Loundras. Et donc, ça a 10 ans qu'il remporte la médaille de bronze en 1896. est donc la plus jeune athlète olympique, donc une fille.
9 ans.
Non, c'était 11 ans. Donc une Roumaine de 11 ans lors des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968.
Je pensais pas qu'on pouvait pas aller aux Jeux Olympiques en étant mineur.
Ouais, si, c'est possible. Il n'y avait pas une Russe
si, dernier JO ouais, récemment,
oui.
Puis même
d'hiver.
Ouais, puis même des joueurs de football.
Elle s'est dopée, mais
même des joueurs de football.
Oui, oui.
Non, mais c'est vrai qu'il y a même des joueurs de football. C'est
mais je
aussi.
Crois que c'est dans tous les sports. Hein.
Ouais, oui, c'est possible. Oui, oui. Allez, un dernier record.
Alors un petit peu. Donc le plus jeune médecin. Âge de la plus jeune médecin. C'est une fille.
La plus jeune médecin.
Sachant qu'il y a beaucoup d'études quand même.
20 ans, c'est ça, avec Iqbal Mahmoud Al-Assad, une palestinienne réfugiée en Iran. Et pour finir, le plus vieux candidat au baccalauréat.
Quel 80. Âge 50...
93 ans.
Oui, 93 ans, oh. C'est Marcel Mazegoza.
Il a juste lu la croix déjà.
Voilà. Voilà. Comme voilà, quoi, il n'est jamais trop tard.
Voilà, mais bah, il est tard là d'ailleurs. Soit honnête, c'est pour ça que j'avais lu que c'était écrit 93 sur ma fiche. Merci beaucoup, Ottilie, d'avoir fait découvrir ces records du monde. Là, c'est le record du monde du retard. Bon, allez, on revient dans quelques instants. C'est RCN, on parlera écologie dans quelques instants.
RCN, l'âge bête.
Allez, on parle désormais écologie avec toi Clovis. Tu nous parles de la France qui est un grand pays de l'agriculture.
Eh oui, la France c'est un grand pays d'agriculture certes, mais au fond du trou. En 2021, la France a exporté près de 70 milliards d'euros en matière agricole et agroalimentaire. Avec une production agricole estimée à 81,6 milliards d'euros, la France demeure le principal producteur européen avec près de 17% de la production totale du continent, loin devant l'Allemagne. Néanmoins, selon un rapport sénatorial, l'agriculture française poursuit son érosion. Les précédents chiffres masquent l'augmentation des produits importés dans de nombreux secteurs. La France importe près de 63 milliards d'euros de denrées alimentaires. La plupart des secteurs sont touchés, comme la viande, les légumes, les fruits. Selon le même rapport, 70% des pertes de parts de marché s'expliquent par une perte de compétitivité par rapport aux autres pays producteurs. Celle-ci est due, entre autres, au coût de travail dans le secteur agroalimentaire qui est élevé, au niveau élevé d'exigence des politiques environnementales, à la taille des exploitations qui sont en moyenne plus petites que celles des concurrents, à la fiscalité de production. En effet, en France, il existe 7 impôts différents, 7 impôts. Leur taux d'imposition dépasse parfois le revenu tiré des terres agricoles. La France fait partie de la moitié des pays européens qui conservent une taxe foncière indépendante du revenu, ce qui cause une rentabilité nulle, voire négative des terres agricoles. Donc les produits français sont donc chers, on leur donne une préférence à l'exportation. Les agriculteurs sont donc en détresse, hein, la preuve, hein, des salaires dérisoires, des conditions de travail qui sont extrêmes et des retraites du moins aberrantes. Et sans oublier un taux de suicide extrêmement élevé, le nombre d'exploitations agricoles en baisse. Donc pour eux, c'est une nouvelle année de galère qui s'annonce.
Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour remédier à tout ça ?
Moi, je propose de réduire les exportations pour manger des aliments qui sont produits sur notre terre. Donc pour les aider, manger français.
Ça va se terminer sur ce slogan. C'est vrai que ça pose un vrai problème aujourd'hui, l'agriculture. Merci Clovis pour cette chronique écologie. Allez, on va faire un petit quiz de culture générale avec toi Lucie, c'est à toi.
Eh bien c'est parti, commençons avec une question de géographie, comme d'habitude. Quelle est la capitale du Venezuela ?
Ouf. Oh. Ouais mais...
Oh. Si ça commence comme ça...
Venezuela.
Oui, oui.
Venezuela.
Non.
Venezuel.
C'est vrai que c'est pas facile, mais moi je ne savais pas, c'est Caracas.
Ah, Caracas. Oui, on a déjà entendu parler, mais dans la presse.
Non, pas
mais...
moi.
Bon.
T'as appris quelque chose. Continuons ensuite avec quel peintre a peint, attention, quelque chose que vous êtes censé connaître, La Nuit étoilée.
Van Gogh.
Exactement, Vincent Van Gogh, en quelle année ? Vous savez ou pas ?
1800 quelque chose.
64.
1889.
64.
Ça remonte un petit
64.
Peu.
64.
Continuons ensuite avec une question, je ne sais pas trop quel est le thème. Quelle langue parlent les habitants de l'Autriche ? Les Autrichiens ?
L'Autrichien. L'Allemand ?
Oui, l'Allemand.
Exactement, l'Allemand, c'est d'ailleurs un des seuls pays qui parle
l'Autrichien. Non, c'est moi.
Il n'y a pas beaucoup de pays qui parlent allemand et l'Autriche en fait partie. Maintenant, que signifie gougnafier ?
Gougnafier, ok.
Manger ?
Un gougnafier, quand tu dis quelqu'un que c'est un gougnafier.
Alors déjà, je ne dis pas ça, mais
il est grognon.
Oui, en quelque sorte, un bon à rien.
Ah, non.
Un bon à rien. Ah,
très
bien,
ça. Espèce de gougnafier.
Je vais l'utiliser, celle-là.
Continuons ensuite avec une question qui tourne un petit peu autour du bac de français. Quel auteur a écrit Gargantua ?
Rabelais.
Exactement, François Rabelais, ouais. Et c'est sorti en quelle année, vous savez ou pas ? Ça remonte, c'était il y a longtemps.
1536
34.
Ah,
c'est presque ça. Finissons avec une question de géographie. Quel est le pays contenant le plus d'habitants ?
La Chine.
Oui.
Mm-hmm. Vous savez combien ?
Non, c'est l'Inde.
C'est pas encore le cas.
C'est pas encore le cas.
Ah si, je crois que ça a dépassé il y a quelques semaines.
Non, c'est pas encore tout à fait le cas.
Pas 1,4 milliard, un truc comme ça ?
C'est 1 425 887 000.
Mais je crois l'Inde, elle a passé les 1,5
ouais,
milliard.
C'est prévu,
milliard,
trop.
Peut-être, mais ça date du 1er juillet 2022. Donc,
très bien.
Voilà.
Eh bien, merci.
Contestation,
Lucie.
Je crois que j'étais absent.
Alors oui, pour la première fois, Clément n'a pas répondu.
Attends, l'événement,
question.
T'étais fatigué ou quoi ?
Mais en fait, Martin s'est étouffé à un moment donné. Et je voulais
Bah oui, non, mais c'est Ottilie qui a gagné, du coup, avec 2 pour elle, 1 pour moi et 1 pour Naïm et 1 pour Clovis aussi.
Et du coup, au total de toutes les émissions, pour l'instant, qui est en tête ?
Eh bien, depuis le début, alors je fais un récapitulatif général. Ottilie a eu 5 points, Clément en a eu 16, moi j'en ai 8, Martin t'en as 2,
oui, voilà.
Naïm en a 4, Clovis en a 8, et au total, il y a quand même 10 questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Hein.
Très bien, merci Anne pour ce récap. Allez, on parle musique à présent avec toi Naïm, tu nous parles de l'artiste H. John Crack.
Oui, la première chose qu'on remarque quand on écoute un de ses morceaux, c'est que sa voix est très particulière. C'est qu'à chaque fois qu'on l'entend parler ou chanter, on a l'impression qu'il chuchote, c'est très particulier. Alors pourtant il chuchote pas, mais c'est juste sa voix. Mmh. Au début c'est bizarre, on finit par s'y faire, voire même par aimer. Une autre chose qu'on remarque vite, c'est que ses instruments sont très originales, c'est-à-dire on sent qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment de logique ou de sens. Ça peut être du hip-hop, 5 secondes de silence, 5 secondes de reggae, puis re du hip-hop. Mmh. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est très original et c'est quand même passé assez bien en général. Un autre truc marquant, c'est son style d'écriture qui est très engagé pour plein de causes en tout genre, mais qui reste léger grâce à des remarques très second degré, à des vers très décalés. Donc par exemple, pour en citer quelques-uns, « Je suis un vrai crack, même si jamais vu de vrai crack », ou « Excusez-moi la vulgarité, nique sa mère de dire nique sa mère, je vais dire nique son père pour changer un peu. » Entre deux phrases sur l'écologie. Pour le présenter, j'en suis sûr. Un des seuls morceaux qui correspond assez peu à ce que je viens d'écrire, on écoute Big Lebowski par H. John Crack.
Ok. Yeah. Yeah. J'ai compris que c'était chacun pour soi, depuis l'époque où ça tapait des califs. Si tu penses qu'à toi, t'es égoïste. Je pense pas à toi, t'es naïf. Je voulais me casser vers les Maldives, mais j'avais pas vu les tarifs. C'est dommage, je sais que je vais perdre life le jour où j'aurai oublié mon canif. Je passe au même endroit tous les jours. À chaque fois, ils construisent des nouvelles tours. Je représente nulle part, donc je représente tout le monde. Je fais de la musique même pour les sourds. J'ai trop la dalle, là carrément je parle. Et ils veulent récupérer ma salive pour faire des tests, des analyses. Je me comprends pas, j'insulte le diable, pourtant je bois sa pisse. Si je te guette bizarre, c'est parce que tu me guettes bizarre. On veut ce papier, on veut les visas. Y'en a, ils ont glissé pendant ce temps. Moi je fais des glissades, car mon truc est trop glacial. Yeah. Ok, un jeune craque le caillou, les silex. Protège ton business, yeah. Protège ton frère, après protège ton business, yeah. À chaque bar, je me tape des barres. Là, je me sens moi-même, ça c'est rare, yeah. J'avais pas encore vu le prix du billet quand je voulais me casser au Baléares, yeah. Donc je reste dans ma brechon, ou bien avec mon pote dans sa Peugeot. Quand j'ai appris que mon pote avait failli se faire refroidir, j'ai eu un peu chaud. Je me suis dit, protège ton frère, après protège ton business. S'il y en a un qui mange plus que les autres, c'est qu'il y en a qui se font finesse. Ils font trop de bruit si je réussis. Pour célébrer, je fais une minute de silence. R.E.P. n'est pas le jaguar, c'est une brique. J'bâtis un empire, c'est Byzance. Yeah, yeah. Ok, y'a 50 flots dans ton album, ils sont tous claqués. Citoyens du monde, je suis sous Sky, sous Rome, sous Saké. Ils sont très sus, l'industrie, c'est un boucaké. On fait trembler la salle, le truc est sismique. C'est époustouflant, c'est magnifique. J'kiffe trop ma petite meuf, j'suis piqué. Les opposants expliquent. J'suis dans le turfu, ça ressemble au néolithique. J'voulais rester low-key. Très très loin des gossips. Je voulais me reposer toute ma putain de life comme le Big Lebowski. Mais les bases me sont tombées dessus. J'ai même pas fait exprès. J'suis pas roi, y'a des gens que j'connais pas. Mais j'ai l'impression que c'est des traits. Protège ton frère, après protège ton business. Protège ton frère, après protège ton business. Je suis le Big Lebowski. Sauf que je mets que des strikes. Avec le big label, pour me faire monter les strikes. Je suis le big Lebowski. Sauf que je mets que des strikes. Quand je suis avec le big label, c'est le Barça. On va remplir des stades. Protège ton frère, après protège ton business. Protège ton frère, après protège ton business. Je suis le big Lebowski. Sauf que je mets que des strikes. Quand je suis avec le big label, c'est le Barça. On va remplir des stades.
L'âge bête sur RCN.
Allez, on va terminer cette émission avec une petite énigme, histoire de nous retourner un petit peu le cerveau, Alan.
Allez, il va falloir être réactif maintenant. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un fermier. Et vous êtes un fermier un peu bizarre, puisque vous avez décidé de mettre des lapins dans votre poulailler. Sauf que vous vous rappelez plus combien vous avez de lapins et combien vous avez de poules dans votre poulailler. Et donc, vous jetez un œil par la fenêtre et vous voyez vite fait que vous avez 20 pattes et 6 têtes qui apparaissent. Et je vous demande combien vous avez de lapins. Et combien de poules dans ce poulailler? Il y a 20 pattes pour 6 têtes.
Très bien.
Alors, que les lapins ont 4 pattes.
Oui, les lapins, c'est 4 pattes. Les ailes des poules comptent pas. Hein, donc, une poule, c'est 2. Un lapin, c'est 4. Ce n'est pas du nigromiste non plus.
Pour 6 têtes, mais 6 têtes de quoi?
6 têtes au total.
Ah, pas que de lapins.
Non, lapin ou poule. Et pareil pour les pattes.
Ça se remarque la différence entre une tête de lapin et une tête de poule?
Non, t'es un peu bourré, donc tu comptes vite fait.
D'accord, donc je suis... 12, on fera pas de blagues sur les Bretons.
4 lapins, 2 poules.
Exactement, voilà. Ouais. Voilà, j'y étais.
Bien joué, bravo. Bien joué.
Allez, donc, voilà.
C'était ça.
Hein. C'était tout, merci Alan. On termine par cette émission, par une citation, Clément.
Ouais, une citation de Coluche, qui nous parle de ses voyages.
Je suis allé en Grèce aussi, en bateau. Le capitaine a dit « Tout le monde a fini d'écrire, je jette l'ancre. » Bon.
Décidément, ces derniers temps, les citations, ce sont des jeux de mots pourris, comme, bah, voilà.
Comme on aime bien.
Voilà, exactement. Merci à l'équipe d'avoir passé la demi-heure avec nous. Merci à Mathis, à la technique aujourd'hui. Merci à Jasmine, à la programmation musicale pour la première pause. Merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez une très très belle journée sur RCN. Salut.
Salut. Salut. Salut.